Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parentalité. À chaque émission, je recevrai un jeune, un parent ou un professionnel qui viendra s'exprimer sur sa parentalité et encore plus. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir un super plateau composé de plusieurs femmes et d'un seul homme. Donc, pour faire une exception, on va commencer par toi, le chroniqueur. Comment tu vas, Barbery ?
Ça t'a fait bugger, carrément.
J'en perds mon latin, ouais, tellement tu vas prendre cher.
Parce que c'est vrai que d'habitude, c'est les hommes qui sont en majorité. Donc là, c'est bien de changer un peu.
Est-ce que tu veux bien te présenter
pour ceux qui te connaissent pas ? Chroniqueur de cette merveilleuse émission. Je le dis à chaque fois parce que je veux une augmentation. Et je suis vraiment ravi d'être sur ce plateau.
Merci Barbery. Tu as des enfants ?
Trois filles.
Trois filles.
Donc je ne suis pas dépaysé là en fait. Je suis en minorité tout le temps.
C'est dans ton élément.
Exactement.
On va commencer tout de suite avec ce super plateau. Mariam, comment tu vas ?
Salut Ami, ça va très bien, merci.
Merci à toi d'être là. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ?
Yes, en quelques mots, Mariam Sissoko, présidente directrice maintenant depuis janvier, ça fait bizarre. Depuis, je suis toujours présidente fondatrice de Puissance de Femmes, une association qui a pour but de renforcer le pouvoir d'agir des femmes.
Waouh, voilà. On en saura un peu plus prochainement. Ouri, comment tu vas, Ouri ?
Ça va et toi, Ami ?
Je suis très contente de t'avoir avec nous. En plus, tu es une femme pressée, une femme d'affaires. Veux-tu te présenter ?
Je suis Ouri Diao, je suis collaboratrice de cabinet du maire de Roissy-en-Brie. Je suis responsable de ce qu'on appelle la politique de la ville. Et en parallèle, j'œuvre dans les associations notamment dédiées aux femmes qui souhaitent entreprendre. Et j'ai aussi une entreprise qui accompagne les femmes en volonté de se lancer et de s'épanouir via l'entrepreneuriat.
Merci Ouri. On continue avec Virginie. Comment tu vas, Virginie ?
Salut Ami, ça va ? Merci de m'avoir invitée.
Merci d'être là. Est-ce que tu veux bien te présenter également ?
Oui, et ben moi je suis coach et j'accompagne également les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on est au tout début, hein, quand on a besoin encore de lever les freins, de gagner en confiance en soi, qu'on se demande un petit peu par où commencer. Donc j'interviens à ce niveau-là. Mais j'interviens également avec des femmes qui sont un peu plus avancées dans l'entrepreneuriat et qui ont des idées qu'elles ont envie de développer. Donc on travaille ensemble pour pouvoir mettre ces idées en place et que ça devienne des projets concrets. Et j'ai une dernière casquette où je travaille sur la parentalité. Et tout ça, c'est chapeauté aussi par une association que je coordonne et où on aide les femmes qui sont issues des quartiers populaires à pouvoir redessiner leur voie professionnelle, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat.
Merci Virginie. Syrah, comment tu vas Syrah ?
Ça va, Ami, et toi ?
Merci d'être là.
Merci à toi.
Est-ce que tu veux bien te présenter également ?
Oui, donc moi je m'appelle Syrah, je suis coach professionnelle, je m'occupe des femmes aussi. Pas sur le domaine de l'entrepreneuriat, plutôt confiance en soi, positionnement professionnel, communication. Et je suis également présidente d'une association qui s'appelle Wanawake, qui veut dire femme en Swahili, et qui œuvre pour l'indépendance économique des femmes.
Ouais, génial. Voilà. Magda.
Bonjour.
La cerise sur le gâteau, comment tu vas Magda ?
La cerise, je ne sais pas comment passer après ce super beau plateau de jeunes femmes inspirantes et engagées. Ben, bonjour, Magda Jouini, présidente de l'association Puissance des Liens. J'ai également fondé l'association il y a 2 ans. Et un pur hasard avec Puissance de Femmes. Et d'ailleurs, nos chemins se croiseront plus tard. Mais j'œuvre en fait sur tout ce qui concerne l'accompagnement contre la lutte, sur la lutte contre les discriminations au sein des quartiers populaires. J'accompagne en fait les familles, aussi bien également sur le soutien à la parentalité. J'ai un volet également qui accompagne les femmes justement sur l'empowerment, sur leur émancipation financière également, professionnelle, mais également sur la partie de charge mentale, puisqu'on n'en parle pas assez de cette charge mentale que ces femmes des quartiers populaires portent. Voilà, je les accompagne au mieux. Je dirais que j'ai plusieurs autres casquettes, mais surtout une actrice de terrain. Je dirais à tous les niveaux. Je viens de Seine-Saint-Denis. Et je travaille aussi avec la Fédération des centres sociaux, puisque je suis membre du conseil d'administration, où on œuvre aussi également sur les politiques de justice sociale de ces familles des quartiers populaires.
Eh bien, cher auditeur, vous voilà servi. La thématique, c'est justement une thématique qui tient à cœur, puisque femme, mère, leader, challenge ou défi, je crois que ma première question est dans la thématique qui se lance.
un challenge ou un défi.
Moi, je vais être spectateur, du coup, dans cette émission.
Non, non. Non, parce que justement, ce qui va être intéressant, c'est que souvent, quand les femmes parlent, on va les taxer d'être féministes, d'exclure les hommes de la conversation. Là, c'est vrai que tu n'es pas majoritaire, c'est fait exprès. Mais l'idée, c'est aussi de voir quelle est ta perception à toi et comment, en tant qu'homme, on reçoit ça. Parce que qui dit femme, mère, leader, dit que derrière, souvent, il y a aussi un homme. Et comment cet homme vit l'ascension des femmes, je pense que c'est important d'avoir aussi ce retour-là et de ne pas avoir des conversations où on soit que dans un entre-nous.
Bien sûr.
Donc même si tu veux, tu commences.
Voilà. Ben ouais, je peux commencer, ça ne me dérange pas du tout. Femme, mère,
leader.
Et ben, c'est ce qu'on souhaite. Pour moi, c'est le portrait robot de la femme parfaite en réalité.
Mm-hmm.
C'est quoi la femme
de moi?
je dirais pas parfaite parce qu'il n'y a pas de perfection, mais idéal. C'est peut-être plus le mot idéal que je peux remplacer. Ouais, parce que c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Mmh. Avoir une femme qui soit mère, qui endosse son rôle de mère, son rôle de femme et qui soit leader. Parce que pour moi, je le dis, c'est que lorsqu'on est dans un couple, dans une famille, en fait, on forme une équipe. Et dans une équipe, il faut des leaders. C'est-à-dire que moi, je ne me vois pas être avec quelqu'un qui est suiveur, une suiveuse. Moi, je ne vois pas. On a besoin de se tirer l'un et l'autre parce qu'il y a des hauts, il y a des bas chez chacun. Et par exemple, si moi, je suis dans un down, j'ai besoin que ma partenaire me hisse vers le haut, en tout cas me relève et vice-versa. Donc, pour moi, c'est le portrait idéal.
Les filles ?
Je suis d'accord avec ce que dit Anne. D'accord. Je dirais que moi, en tout cas, à titre personnel, et j'en profite pour rendre hommage, moi, à mon mari, chose que je fais très, très rarement. Et c'est pour ça que je vais prendre le temps de le faire, parce que je suis maman de 5 enfants aussi. Donc, et aujourd'hui, ce que j'essaye en tous les cas de porter au quotidien, c'est de dire qu'effectivement, on peut être mère, on peut être président d'association, on peut être une femme engagée. Je fais partie de, tout à l'heure tu parlais de conseil citoyen, je suis une femme engagée sur ma ville, je suis une femme engagée à l'extérieur, mais en même temps je suis la femme que je suis parce que j'ai l'opportunité de pouvoir compter sur un mari aussi qui me soutient. Et même si aujourd'hui la femme que je suis ne se résume pas à un homme ou à des enfants ou à ce que je fais en fait en réalité. Aujourd'hui, quand je me regarde dans un miroir, quand je me lève le matin, je me dis j'essaye de faire de mon mieux avec les facilités ou les difficultés que je vais rencontrer. Mais en tous les cas, toujours essayer de le faire de manière sincère, honnête et de le faire au mieux. Et effectivement, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, à la fois avec mon association, à la fois avec les personnes que je guide et que j'aide au quotidien. Et c'est vrai que le fait d'avoir un mari qui m'a toujours connue engagée et qui, du coup, est là, parce que souvent, cette question, c'est pas par hasard que je le dis aussi. J'ai fait partie d'un collectif d'habitantes, il y a plusieurs années de ça, qui avait monté les états généraux de l'éducation sur la ville de Stain. Et donc, on avait été suivis, ça a donné un film, Femmes politiques, et donc sur l'engagement des femmes dans les quartiers populaires qui se réapproprient en fait une question d'inégalité, là en l'occurrence sur la scolarité et donc le manque de professeurs, etc. donc dans les quartiers populaires. Et à l'époque, on faisait beaucoup de conférences de presse pour parler justement de cet engagement-là. Et la seule chose qu'on trouvait à nous dire, au lieu de nous féliciter pour l'engagement qu'on avait eu, etc., c'était « Où sont les hommes ?» Qu'est-ce que vous avez fait de vos hommes? Qu'est-ce que vous avez fait de vos enfants, en fait? C'était la question qui revenait systématiquement. Et je trouvais ça dingue, en fait, qu'on nous résume et qu'on nous renvoie systématiquement à ça. On avait des choses à défendre, des choses à dire. Et pourtant, derrière, on essayait de clairement se dire, pourquoi, en fait, vous êtes là? Comment vous avez fait avec vos enfants? Comment vous avez fait avec votre mari? Au lieu de nous poser des questions sur le fond, en fait. Et je trouvais ça dommage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore, malheureusement, cette charge mentale qu'on porte. Mais oui, je trouve qu'il est essentiel, en tous les cas, aujourd'hui, de montrer qu'il est possible à la fois d'avoir tous ces rôles, mais très complexes quand même à la fois, de pouvoir les porter avec cette charge mentale. C'est devenu en plus quelque chose dont on traite et très à la mode, on va pas se mentir, aujourd'hui vous le voyez beaucoup. Mais je trouve qu'il est essentiel en tous les cas de rappeler que la femme est capable de tout faire aujourd'hui.
Merci Magda. Des filles ?
Ouais.
Moi, je trouve le sujet, comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, en fait. Le hasard, c'est le nom de Dieu quand il veut passer incognito. Hier, on a eu un grand débat, nous, à la maison. Pour vous la faire courte et vous raconter ma vie en contracté, j'ai mon fils qui joue au foot à haut niveau aujourd'hui. Il est au FC Nantes, il a 17 ans et dans un an, il doit prendre un appartement, être seul et évoluer seul. Je suis mère de 3 enfants aussi, une vraie maman africaine, bien qu'indépendante, leader, etc. Et là, on a un vrai questionnement. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse vivre seul? J'y vais? T'y vas pas? Et hier, grande discussion avec mon mari et ma fille, parce que dans le questionnement femme, mère, leader, challenge ou défi, le sujet qu'on a, c'est qu'on veut tout faire. Mais comment je dose, comment je proportionne? Et quand je t'entends, je repense à ce que je disais hier à mon mari et je pense que je n'ai pas été très gentille. Parce que mon mari et ma fille n'existent plus, il n'y a que mon fils qui existe. Donc, j'ai pris la décision de démissionner, d'aller vivre avec le petit, etc., etc., tu vois. Mais je fais abstraction de l'autre. Là, c'est mon côté maman qui a parlé. Et je me dis, mais est-ce que c'est comme ça que tu dois réagir? Parce qu'en même temps, tu es une femme leader qui a toujours bossé, etc. Tu n'as jamais été sur le dos de tes enfants. Pourquoi aujourd'hui tu vas le faire? Et est-ce que du coup, je ne vais pas détériorer cette image de moi, de femme leader, travailleuse, etc. Oui. Et pour le coup, en plus, tu deviens un peu égoïste parce que tu n'as pas concerté les autres et tu as pris ta décision de façon unilatérale. Oui. Mais après, en tant que mère, il m'est viscéral pour moi d'aller accompagner mon gamin de 18, enfin, qui aura 18 ans et de l'aider à s'installer, etc. Tu vois, moi, j'imagine pas faire autrement. C'est le dernier de la maison. En plus, il est parti à 13 ans. Donc, du coup, moi, mon temps d'éducation a été hyper contracté. J'ai fait 0-12 ans, en fait. 0-12 ans, là, de 12 et demi à aujourd'hui, j'ai pas eu mon fils. Donc, du coup, j'ai ce besoin qui est viscéral aujourd'hui d'aller rattraper, même si on rattrape jamais rien, ce temps d'éducation qui m'a été un peu arraché, c'est beaucoup dire, hein, parce que j'ai accepté aussi la situation, mais qui m'a manqué. Mais pour le coup, est-ce que j'ai été une bonne femme en faisant ce que j'ai fait à Bige hier? En lui disant, de toute façon, tu fais ce que tu veux, vous montez, vous descendez, moi, je pars. Tu vois? Et donc, c'est des questionnements perpétuels en tant que femme. Et quand tu parlais tout à l'heure de t'occuper de la charge mentale et qu'on n'en parlait pas assez, je pense que là, il y a un vrai questionnement et il y a quelque chose à faire au niveau charge mentale parce qu'on a beau être forte, tout faire, stop. Un coup, t'as un sac de course là, ton ordi là, c'est plus possible, en fait. Avec l'âge, c'est difficile. Et qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour arriver à pallier toutes ces personnes plurielles que nous sommes en une.
Ouais, c'est exactement. Ou en plusieurs. J'aime beaucoup, ça c'est très bien dit.
Et en plus, pour essayer, parce que souvent, ce type de femme, on veut contenter tout le monde. Comment vous faites, vous? Parce que franchement, moi, en ce moment, c'est...
Je vois Anne qui hoche la tête, tu voulais c'est réagir. Anne, il t'a regardé la tête.
Il pense à son frère.
Voilà, exactement. Moi, je suis solidaire. Je suis solidaire avec ton mari que je connais très bien, parce que c'est mon yaya. Et en fait, la question que je me pose, parce que tu parlais d'équilibre, est-ce qu'en allant auprès du petit, tu ne vas pas le déséquilibrer?
Mais si, elle sent qu'elle en a besoin.
Oui, je l'entends. Elle en a besoin.
Mais le petit aussi en a besoin.
En fait, je pense que c'est plutôt là la question. C'est de savoir, est-ce que le petit, lui, ressent ce besoin-là?
Si tu écoutes Tilel, il n'a pas besoin. Clairement, le gars, il est parti à 13 ans, vous le connaissez, en plus, il est hyper mature et tout. Si tu l'écoutes, c'est pas possible. Il m'a menacé d'appeler toute la famille, de me faire une réunion générale avec les parents. Et tout. Mais moi, en tant que mère, comme maman, je me dis, est-ce que à 18 ans, je te laisse seule dans un appartement?
Tu sais, moi, ton histoire, elle me fait. Ce qui résonne, le mot qui résonne pour moi, c'est culpabilité. Et je crois déjà, quand on est mère, je pense qu'on est avec. Moi, je dis toujours, quand on est mère, il y a deux sentiments qui naissent avec nous, c'est la culpabilité et la peur. Toute notre vie, on aura ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de peur. Et là, je trouve qu'en plus, quand tu as ces trois casquettes de femme, de mère et de leader, eh bien, il y a toujours de la culpabilité parce qu'en fait, quand tu te donnes un peu plus pour ton boulot, bah, c'est peut-être au détriment de ta famille. Si tu donnes à ta famille, c'est peut-être au détriment de toi en tant que femme, qui tu es. Et en fait, on est tout le temps en train d'osciller. Et pour moi, la réponse, elle est... Enfin, en tout cas, j'essaye de la trouver pas en essayant d'équilibrer au quotidien, mais plutôt en essayant d'équilibrer sur des tranches de vie. C'est-à-dire qu'en ce moment, je sais que j'ai besoin de m'investir à fond dans mon rôle de leader. Mmh. J'y vais. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas là pour ma famille, c'est-à-dire que je ne pense pas à moi, mais j'y vais. Et puis, peut-être que dans quelques temps, j'aurai plus besoin, comme toi, là, d'axer mon temps sur mes enfants. Et auquel cas, bah, je mettrai un petit peu en retrait mon côté leader. Tu vois, c'est plutôt, je pense que c'est vraiment ce qu'on ressent aussi qui nous conditionne.
Mais là, tu as raison, parce que moi, j'ai mis un peu de côté ma vie pro.
Voilà.
Si tu veux, ma vie pro, leader, voyage a commencé très jeune dans ma vie. J'ai eu ma première à 20 ans et tout de suite, j'ai été sur des postes avec des voyages à l'international, etc. Donc, si tu veux, je le vis maintenant, ce besoin de dire « wow, mets un frein ». T'es carriériste et ça va faire un an et demi, deux ans là. Tu regardes mon dernier post Instagram, je ne sais pas de quand il date. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui n'ont pas quitté mon compte. Vraiment.
Tu nous as payé en même temps.
C'est, voilà, j'ai mis de côté toute ma vie, entre guillemets, perso pour accompagner l'enfant. Et je me mets en retrait par rapport à son projet à lui, tu vois. Et ouais, je suis dans cette phase de vie.
Mais je pense qu'il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment lâcher ce côté aussi injonction, en fait. C'est comme on le ressent, nous. Et là, si toi, tu le sens, c'est un besoin vital que tu as. Et du coup, il faut que tu accompagnes ton fils. Et c'est comme ça. Et donc, je pense que c'est important. Par contre, ce qui est important aussi, c'est peut-être de te mettre, toi, une deadline, un temps pour te dire, OK, je l'accompagne à ce moment-là. Et après, je reviens aussi sur d'autres choses. Parce qu'il y a aussi cette notion, il y a d'équilibre qu'on a besoin quand on a ces trois casquettes. Et je pense qu'on est fondamentalement faites pour être mère, femme et leader. Et qu'il y a un moment, on a besoin de retrouver cet équilibre.
Et puis, tu l'as dit aussi à juste titre, tu as peut-être juste besoin d'aller vérifier que les bases éducatives que tu as essayé de lui apporter sont acquises. Ça veut dire que finalement, plus que l'envie d'être avec lui, de le suivre ou de l'étouffer, c'est plutôt de se dire, tu l'as dit, de 0 à 12 ans, tu étais avec moi, mais de 12 à 17, là où il se passe énormément de choses dans la vie d'un enfant, j'étais pas avec toi au quotidien. Donc, je te vois à travers les week-ends, etc. Mais peut-être que tout simplement, tu as juste besoin de vérifier qu'il soit assez solide, mature, pour faire les bons choix, en tout cas, pour faire des choix et prendre ses responsabilités. Donc, du coup, je pense vraiment que cette idée de l'accompagner dans un premier temps, pour aller vérifier justement ce que tu as besoin de vérifier, réajuster peut-être certaines choses, et puis après lui faire confiance, parce que 18 ans, c'est aussi l'âge où on prend le dessus. Sierra, tu voulais réagir ?
Oui, moi, la partie où tu parlais de tranche de vie fait vraiment écho en moi. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai deux enfants, deux ados. Et de leur première partie, première tranche de vie, jusqu'à 6-8 ans, je me suis entièrement consacrée à eux. Et c'était un choix. Je voulais être leader, mais de ma vie personnelle. Donc, j'ai complètement mis de côté ma vie professionnelle. Je me suis occupée de mes enfants. Quand ils ont commencé à être autonomes, j'ai eu ce besoin de revenir professionnellement, de m'épanouir sur d'autres champs. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai pris le temps de pouvoir m'épanouir professionnellement tout en demandant de l'aide. Et je pense que ce que tu disais, en fait, ça me fait penser à une phrase. Je ne sais plus qui disait « choisir, c'est renoncer ». Vous pouvez m'aider ou pas? Ça m'a fait penser à ça.
Personne ne peut t'aider, mais on est tous des érudits.
Ça m'a fait penser à ça. J'ai peur de dire une bêtise.
On est tous des érudits, on est tous avec toi.
Ça m'a fait penser à cette phrase-là. Et c'est vraiment ça. À partir du moment, qu'est-ce qu'on décide de laisser, en fait?
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on décide de laisser? Est-ce qu'on est au clair avec ça, en phase avec ce qu'on décide de laisser? Je pense que c'est des questions qui sont importantes. Et dans ton cas, moi, il y a quelque chose aussi qui m'a parlé. C'est le fait qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a l'effet système, c'est-à-dire que tu n'es pas seul. Et que l'idée, c'est de prendre des décisions sans déséquilibrer ta famille en entière, en fait. De trouver le bon équilibre entre ça.
Mais est-ce que l'équilibre existe vraiment? c'est la question. Parce que je suis d'accord, je crois qu'on est tout à peu près pareil. Mais pour juste rebondir, c'est que moi, pareil, j'avais laissé ma carrière entre parenthèses. Je suis juriste de formation. En fait, pareil, je faisais beaucoup de voyages à l'étranger, beaucoup de déplacements. Et je me suis retrouvée justement avec ma fille, ma première, que je n'ai pas vue grandir. J'ai pas vu. Elle était gardée par mamie et du coup le soir quand je la récupérais tard, elle voulait rester. En fait, je me souviens, c'était l'horreur. Ça me crevait le cœur parce qu'en fait, je la tirais. Elle voulait rester qu'avec ma mère. En fait, elle ne voulait plus sa maman. Et là, je me suis dit, il y a un problème. En fait, et ça a été un déclic et je me suis dit, bon, il va falloir peut-être repenser autrement. Mais c'est vrai que là, du coup, on a ce côté où on se sent coupable à la fois d'être sur tel ou tel rôle. Donc, quel est en réalité l'équilibre? Comment est-ce qu'on le trouve? Mais en réalité, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de... Voilà, c'est au fur et à mesure, comme vous le disiez, ouais, ouais, avec des tranches de vie. Un moment où on privilégie. Moi, j'ai privilégié un moment ma carrière pour ensuite voilà, arriver là où je voulais. Puis après, j'ai mis un temps pause et je me suis occupée de mes enfants où je les ai fait grandir, comme tu disais, jusqu'à la dizaine d'années. Et puis après, j'ai carrément, là, pour le coup, changé professionnellement parlant puisque je me suis engagée de manière associative et sur l'engagement de terrain réel. Donc voilà, et là, j'y trouve à peu près mon équilibre aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui encore de se dire qu'on est... que, voilà, de ne pas se sentir coupable quand on lâche soit le côté leader, soit le côté mère, soit le côté professionnel, en fait, en réalité.
Et finalement, ce qui compte, c'est de ne pas avoir de regrets et de faire ce que ton cœur te demande de faire.
C'est aussi,
après,
aussi.
Tu réajusteras de par toi-même.
Voilà.
Mariam, comment toi, tu vis cette triple casquette? Parce que, quelque part, toi aussi, tu es en plein dedans, puisque il n'y a pas si longtemps, tu te lances dans une nouvelle aventure. Comment tu vis tout ça?
Mais justement, c'est pour ça que je suis très attentive et que je bois vos conseils, parce que moi, mes enfants, ils sont petits encore. Mmh. Et du coup, là, quand je vois que vos enfants, ils sont plus âgés...
Tu peux nous rappeler l'âge de tes enfants?
Mon premier, là, il a eu 6 ans, voilà, le 7 février. Et la deuxième, elle va avoir 3 ans le 27 mai. Et moi, c'était l'aventure entrepreneuriale, elle est là. Hein, ça fait quelques années, ça ne fait pas super longtemps. Ça fait 3-4 ans maintenant que j'entreprends, mais 2 ans là où je suis vraiment à fond. Et moi, j'ai eu un gros dilemme, vraiment, parce que du coup, autant m'a dit le premier, j'étais là, parce que j'étais encore salariée, donc j'étais derrière. Mais autant la deuxième, on l'appelle bébé puissance de femme, parce que j'ai tout démarré, elle était dans mon ventre. Mais vraiment, elle était dans mon ventre. Et c'est même elle, je pense, qui a impulsé. C'est les hormones, c'est l'énervement. Et je me suis dit, il faut qu'on agisse. Enfin bref, ça, c'est l'histoire de puissance de femme. Et j'ai tout géré avec Amara dans mon ventre. Et du coup, j'ai tellement culpabilisé. Parce que c'est allé tellement vite, tellement fort que j'avais pas le temps, en fait. Et donc, du coup, là, ce que tu dis, typiquement, la petite, elle était plus proche de mon mari que de moi. Alors qu'elle était encore bébé, parce que moi, je rentrais à pas d'heure, que voilà, j'enchaînais. Et donc, je culpabilisais énormément. Et je me disais, autant je m'épanouis professionnellement, mais au détriment de quoi? Tu vois, au détriment, c'est quoi le plus important pour moi? C'est ma famille. Mais en même temps, j'avais aussi des conseils de maman et autres qui me disaient, écoute, de toute façon, c'est pas le temps que tu vas passer, mais c'est la valeur, enfin, c'est la qualité de temps.
Ouais, c'est ça.
Et donc, moi, je culpabilisais énormément parce que tu as tendance à comparer. Je me dis, il a été très propre tôt, il a marché tôt, il a fait plein de choses rapidement. Amara, je la voyais, elle avait du mal à parler. Je me suis dit, oh. Mais en fait,
est-ce que papa parle pour...
Je me suis dit, mais c'est quoi, maman? Elle a un problème, la petite. Et donc, du coup, tu culpabilises. Mais aujourd'hui, c'est une pipette comme pas possible. Elle se la raconte de malade. Elle est sûre d'elle, elle est bien dans sa peau. Mais voilà, il y a toujours en tout cas, c'est pour ça que je suis très attentive, mais de savoir quelle est ta place. Et moi, j'ai ressenti la culpabilité, toi, te concernant, en disant, au début, il était là, mais après, il est parti jusqu'à 30 ans. Donc, c'est limite, t'as envie de rattraper le temps que t'as pas pu avoir. Donc, quelque part, il y a la culpabilité. Et d'un autre côté, c'est de se dire, c'est quoi la solution? Mais en fait, des solutions, il n'y en a pas.
Ouais,
c'est ça, en fait, il n'y a pas de solution.
Oui, il y en a plein.
Oui, il y en a plein, mais en fait, il n'y a pas la solution idéale. En fait, l'idée, c'est d'être bien accompagné. Et là-dessus, et là, je trouve qu'on a de la chance, en tout cas, quand je vous écoute, c'est que le partenaire, en tout cas, nous, il est encore là. Oui. C'est que moi, personnellement, je me dis, et c'est ce que je dis, c'est que je n'aurais pas pu faire. Je ne dis pas que je n'aurais pas pu faire, mais peut-être que ça aurait été
moins de la même manière.
Si mon mari n'était pas à mes côtés depuis le début, il est derrière moi, on ne le voit pas, mais il est là. Et c'est vrai que pour moi, c'est une richesse qui est importante parce que coup, je peux souffler,
c'est une épaule.
Ouais, et ça, je sais que là-dessus, je suis très chanceuse et je l'en remercie. Je sais qu'il passe par là, il va me dire encore, voilà, Mariam, t'abuses. Mais
je vais en profiter.
Mais c'est beau, tu vois, parce que du coup, on a tendance à dire que les hommes, ils sont pas là, les hommes, ils prennent pas leur rôle de père. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a de tout, mais il y a aussi les hommes qui sont là et qui sont près de nous et qui nous accompagnent. Donc, il faut reconnaître. Et puis voilà.
Et merci pour ça parce que on est vraiment dans quelque chose où on a tendance à être les uns contre les autres et pas marcher les uns avec les autres. Et après, il y a la vie qui fait que beaucoup de femmes se retrouvent dans des situations de monoparentalité, comme beaucoup d'hommes. Logiquement, si les femmes se retrouvent à un moment seules, l'homme aussi de son côté. Et pour autant, il y a comme un message sociétal qui dit c'est tout aussi bien. Je pense qu'il faut quand même nuancer. Ça veut dire qu'on fait avec les épreuves de la vie et on les dépasse, on les surmonte parce que ça ne doit pas être un point d'arrêt. Mais de faire croire que c'est mieux ou que c'est tout aussi bien, moi, et c'est un avis qui ne concerne que moi, Oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais il ne faut pas faire croire à la société que d'être tout seul, c'est mieux.
Bien sûr.
Avec ses enfants et de gérer la maison, le business, les engagements et autres. Donc, merci pour ça.
Ça, c'est les réseaux sociaux.
Et tu vois la formule, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je la trouve déjà très binaire en elle-même. Parce qu'en fait, on peut être seul, on peut être bien accompagné. Enfin, il y a multiples solutions. Et en fait, en disant ça, c'est comme si on avait le choix soit d'être seul, soit forcément d'être mal accompagné.
Et on oublie tout le reste.
Voilà, on oublie tout le reste.
Attends, Syrah. Moi, personnellement, vaut mieux être seul que mal accompagné.
Oui, mais...
parce que du coup, ils sont toxiques, ils sont pas...
Ça renvoie le fait... Cette phrase, pour moi, elle renvoie le fait qu'on n'a que deux choix. Soit être seul, soit être mal accompagné. C'est ça qui me pose souci dans cette phrase-là.
Alors que tu peux être seul et bien accompagné.
C'est ça, en fait. C'est plus ça qui me posait souci. Et je vais vous raconter aussi un peu ma vie. Mon mari, ça fait 3 semaines qu'il est parti au Sénégal. Mmh. Et la semaine dernière, je lui disais, non mais tu reviens quand là? Moi, la vie de maman solo, là.
C'est horrible. Hein.
C'est difficile, hein, franchement, tout gérer. Et c'est vrai que
quand
on dit aussi que c'est quand les gens ne sont pas là qu'on se rend compte, là, autant vous dire que je le sens passer. Pourtant, c'est des ados. Donc oui, effectivement, avoir quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un sur qui on peut se reposer, ça reste essentiel et dans l'idéal, ça permet quand même de mieux faire fonctionner ses projets, ça permet quand même d'avoir une charge mentale en moins.
C'est une excellente transition.
On la partage.
Franchement, on dirait que vous avez lu mes questions. Charge mentale et pression sociétale, est-elle plus lourde pour les femmes leaders engagées, cette charge mentale et cette pression de la société? On en parlait tout à l'heure un peu en off, c'est-à-dire une femme engagée, une femme qui a le lead. Quand dit la famille, quand dit la société, tout à l'heure Auré disait souvent on a entendu mais tu peux pas faire ça, tu vas jamais y arriver, pourquoi, mais t'es folle. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire?
Je pense que souvent c'est nous-mêmes. Je pense que souvent c'est nous-mêmes, on se met
le premier frein.
On se met beaucoup de charges, tu vois, beaucoup de pression. Après, c'est vrai que la société aussi nous renvoie énormément de pression, c'est une vérité. Hein. Donc, du coup, quand tu es une femme, tu dois faire plus que les hommes. Quand tu es une femme racisée, encore plus. Quand tu n'as pas la bonne adresse, encore plus. Enfin, après, moi, je ne suis pas dans le délire de victimisation. Moi, je ne me pose pas forcément ces questions, mais c'est une réalité, j'ai envie de te dire. Donc, la charge mentale, elle est réelle. Et je pense que c'est le fonctionnement d'une femme, on aime trop contrôler. En tout cas, moi, je parle pour moi. On aime contrôler, avoir la mainmise et que ce soit fait à notre manière, alors que ça peut être fait d'une autre façon et partager la charge mentale, comme on dit, c'est bien. Mais je pense que c'est plus, il y a la société, mais aussi ce qu'on s'impose aussi à soi-même.
Mais est-ce que ce n'est pas un problème de vouloir tout contrôler?
Si, c'est un problème.
Bien sûr.
Parce que quand tu lâches prise, c'est mieux. Mais il faut apprendre à lâcher
prise. On ne nous apprend pas
à lâcher prise, justement.
Parce que souvent,
au contraire,
il y a beaucoup de femmes qui parlent de charge mentale, mais c'est souvent des femmes qui veulent tout faire.
C'est vrai.
Et qui ont du mal à déléguer.
Je suis d'accord avec ça. Moi, personnellement, justement, on parlait des maris, notamment. J'ai tendance à donner, quand je suis en déplacement, quand je suis sur une action ou autre, donner, entre guillemets, des directives. Voilà, les enfants, ceci, cela. Et quand ce n'est pas fait comme je l'entends, comme je le veux, donc forcément, à un moment, ça pique.
J'ai la même à la maison, je sais ce que c'est.
Tu connais aussi. Donc il faut le reconnaître aussi, ça, également. Et c'est vrai que ce que tu disais, Mariam, c'est très intéressant, parce qu'en réalité, c'est les injonctions aussi que nous fait la société. On nous vend sur les réseaux sociaux la femme parfaite, la femme leader. Donc nous aussi, on participe quelque part aussi à cette image qui permet de dire, voilà, regardez, la femme leader, elle est là, la charge mentale. En fait, finalement, on la nourrit et on la cherche et on la nourrit. Donc à la fois, effectivement, tu as ces deux sentiments-là où tu as les injonctions de la société, nous qui nous mettons effectivement une barre aussi extrêmement haute et le fait de ne pas lâcher, puisque nous-mêmes, en fait, on demande aux autres également, tu vois, certaines choses pour lesquelles... Voilà, on veut que ce soit fait à notre manière et pas à la manière des autres. Alors qu'en réalité, quand on lâche prise, et j'ai appris moi avec le temps à lâcher prise, on parlait tout à l'heure des enfants, moi j'ai 2 générations, j'ai mon aîné qui a 15 ans et ma petite dernière qui a 5 ans. Donc j'ai vu la différence entre les fratries. Après, moi je suis maman de 4 filles, donc je fais extrêmement attention à la fois à mon fils seul qui est au milieu des 4 filles et les 4 filles, parce que quelque part c'est aussi un modèle que tu leur donnes en fait au quotidien. Donc moi, quand j'ai arrêté notamment la question de charge mentale, quand j'ai arrêté ma carrière de juriste, à un moment pour les élever, parce que j'ai eu en plus des grossesses rapprochées, donc il était pour moi impossible de tout gérer en même temps, donc à un moment il faut se rendre à l'évidence. évidence. Donc, soit on baisse les armes. Et ça a été très dur pour moi mentalement. Moi, j'ai fait un burn-out. Un burn-out parce que j'ai eu du mal. Et pourtant, je l'ai voulu, hein, de m'occuper de mes enfants, etc., mettre ma carrière entre parenthèses. Ben, j'ai eu du mal, en fait, à retrouver mes marques, en fait. Et pourtant, mes enfants, ça n'enlevait en rien. Voilà, que j'aimais la vie que j'avais, etc. Mais il manquait quelque chose. Et j'ai mis du temps à l'accepter aussi. Et là, pour le coup, cette image-là, en fait, je faisais très attention, après le burn-out, de renvoyer aussi cette image, non pas de pression, notamment à mon aîné. Moi, je vois que ma petite, tu parlais de ton enfant, ta dernière qui est speed, et c'est vrai. Moi, ma petite dernière, elle a connu la Magda super, hyper engagée, tout le temps, H24. Voilà. Et donc, du coup, elle a cette image-là. Je vois qu'elle est effectivement très speed, très à l'aise également. Voilà. Dès 5 ans, elle sait ce qu'elle veut. Et ma grande, qui a 15 ans, au contraire, elle est très dans sa bulle. Après, il y a les caractères des enfants, ouais, bien sûr. Mais je vois quand même quelque part que l'image que tu renvoies en tant que mère aussi, en tant que femme, bah, au sein même de ton foyer, au sein donc des personnes, en tout cas, qui t'aiment et qui t'entourent, bah, quelque part, ça a un impact aussi sur,
ce qui renvoie. Tu parlais de burn-out. Après, moi, je n'ai pas de chiffres, mais est-ce qu'il y a plus de burn-out côté féminin que masculin ?
Je sais pas. Après, les femmes, peut-être qu'on en parle, et les hommes, on en parle moins, parce qu'il y a une culture aussi du fait que les hommes en parlent moins parce qu'on l'accepte pas. Les femmes, c'est aussi pareil, on n'en parlait pas avant. C'est avec les années qu'on commence à parler du postpartum, du burn-out, etc., de ce genre de choses. La charge mentale aussi, on n'en parlait pas. Hein. Tu parlais tout à l'heure, Mariam, du fait que quand on est femme, déjà, on porte des choses assez lourdes, mais quand on est racisé également, on en parle de la charge mentale chez les racisés. C'est quelque chose aussi qui n'existe pas, ou très peu.
Et moi, pour répondre à ta question, pour rebondir à ta question, ouais, toutes les interviews que j'ai faites de femmes engagées, hein, mais vraiment, quand je dis toutes, à 98%, elles sont passées par des burn-out. Discute, hein, mais toutes, et vraiment, c'est le point commun de toutes ces femmes engagées, c'est qu'à un moment ou à un autre, le burn-out est passé par là. Mais vraiment... Et ça fait peur.
Ça fait peur. Mais après, c'est un point de départ. Moi, ça m'a permis après, justement, de passer cette étape et de me dire, voilà, ça, je ne veux plus. J'arrête de croire que je veux systématiquement renvoyer cette image de femme parfaite. Ça n'existe pas. Donc, on parlait tout à l'heure de la perfection. Ça n'existe pas. Il faut accepter à un moment. Ce matin, j'ai pas réussi à gérer. Mais c'est dur, de le dire.
Mais tu vois, le constat que tu as pu faire en off avec, avec ces femmes, est-ce que c'est pas un indicateur sur le fait que les femmes ne puissent pas être les trois précitées, femmes, mères et leaders ?
Si, je pense que justement, il y a les trois. Mais après, il y a un truc sur lequel on n'a pas trop parlé aussi, c'est parfois aussi les poids de la tradition. Souvent, il y a des trucs aussi. Il y a le volet tradition, mais pas que. Et après, il y a la charge mentale, il y a le truc. Ah, pardon. Il y a les trois, mais du coup, il y a... Moi, de ce que j'ai identifié, il y a le fardeau qu'on se met soi-même, parce que ça, c'est une réalité. Il y a le fardeau qu'on se met soi-même. Le fait qu'on aime beaucoup aussi se positionner en tant que sauveuse. Là, je te parle en tant que femme engagée. En gros, la meuf, elle va tout sauver. Donc, en tant que sauveuse. Donc, ça, du coup, ça peut c'est une pression qu'on se met soi-même. Et après aussi, il y a la pression familiale aussi, que j'ai beaucoup revue. C'est de se dire, nous, chez nous, à Sabari, en gros, tu prends sur toi, Mounia, tu prends sur toi et tu fais avec. Parce que du coup, c'est l'éducation aussi qui fait que, en plus, tu te rajoutes ça aussi. Tu vois, tout ça, tu as le rôle de maman, tu as le rôle d'entrepreneur, tu as le rôle de salarié. Et en plus de ça, tu dois prendre sur toi une charge familiale.
Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté éducation. Je pense qu'on est aussi, comme on a été éduqué, les drivers qu'on peut nous donner là quand on est gamin. Pour les femmes, c'est vrai que souvent, c'est quoi ? C'est soit parfaite et fait plaisir. Mais du coup, on garde ça après quand on devient à notre tour maman. Et je trouve que ça questionne aussi le modèle que nous, on a autour de cette table envie de donner à nos enfants et particulièrement à nos filles, de se dire attention, oui, j'ai envie de lui montrer que je suis une femme engagée, que je peux être indépendante, que je peux m'émanciper, j'ai envie de lui montrer tout ce modèle-là, mais attention aussi à ce que je suis en train de lui mettre sur les épaules pour elle dans sa construction, de devoir de lui montrer que je suis sur tous les fronts, que je suis superwoman, que c'est génial. Elle, comment elle va grandir avec ça et qu'est-ce qu'elle va en faire ?
Et est-ce que c'est ce qu'elle veut aussi ?
Et c'est ce que c'est complètement. Et je trouve que c'est important, excuse-moi, juste de se dire montrer aussi ses failles et montrer que des failles sont possibles et qu'évidemment, enfin, on peut avoir ces trois casquettes et c'est génial, mais bien évidemment qu'on ne sera jamais au top à chaque fois, partout. Et c'est important de montrer aussi que ça peut être compliqué. Et tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux, mais on nous montre aussi sur les réseaux sociaux qu'on peut être belle, qu'on peut être intelligente, qu'on peut être leader, qu'on peut être mère, qu'on peut être femme. Mais en vrai de vrai, on ne peut pas accumuler toutes ces casquettes. Et c'est important de le montrer à nos enfants.
Mais est-ce que ce n'est pas la mode aujourd'hui ?
Ouais, je
pense que moi, de ma fenêtre, je trouve que on est dans un, comment dire, une grande télé-réalité pour moi.
Ouais.
Et que aujourd'hui, y a beaucoup de femmes qui se mettent, en tout cas, le costume de femme, mère, leader, quand elles le peuvent, mais ça va pas à tout le monde.
Oui, ça, c'est un autre problème, ça. Ça,
c'est chose, je ne sais pas, je ne sais pas si ça va pas.
Là,
Ori, je te laisse répondre à ça. Bon, Ori, je te laisse répondre à Anne.
Qu'est-ce qu'il veut dire
à ça ? C'est ça la question.
Qu'est-ce qu'il veut dire à ça ? Non, mais je vais rebondir sur ce que tu dis quand tu parles de l'image qu'on va donner à nos filles. Alors, moi, j'ai ma fille, elle a 25 ans. Donc, je peux vous donner un peu de
on
piste.
Prend.
Je suis une pression sans nom pour mon enfant. Ouais. Et c'est juste horrible d'avoir... enfin, horrible. Je force le trait des mères comme nous. Parce que tu mets une pression à ta gamine qui a une autre personnalité, comme quoi ben, elle doit tout réussir. Elle doit réussir ses études, elle doit réussir ceci, cela, machin. Et c'est dingue. Moi, elle me le dit. Des fois, t'entends ma gamine dire... la dernière fois, elle s'est fait féliciter par son oncle pour son anniversaire. Il lui dit ah, bah, c'est bien, t'es encore en études et tout. Bah, avec la mère que j'ai, tu crois que j'ai le choix? Tu vois? C'est des trucs comme ça. Je l'ai emmenée visiter HEC Montréal et tout. Elle est rentrée. Quand on lui pose la question, alors c'est bien, tu vas y aller et tout. Ah, tu parles du rêve de ma mère?
Ouais,
tu vois, et on le voit pas parce que toi, tu veux le meilleur pour ton enfant. C'est ta fille, t'as envie que personne lui marche dessus, tu vois. C'est une gamine, une princesse, c'est mort. Tu veux pas qu'on lui fasse du mal. Donc, tu veux lui donner toutes les armes possibles pour pouvoir se défendre face à la société, face au monde de demain. Mais malheureusement, avec cet objectif-là, des fois, tu peux finalement créer des petites fissures chez l'enfant qui te regarde comme une pression. Et d'ailleurs, souvent, quand je lui parle, je lui dis quelque chose. « C'est bon, maman, arrête de me mettre la pression. » Je lui dis « Mais Kumba, j'ai juste demandé ça, tu parles de pression. » Et elle, tout de suite, souvent, elle me dit « Arrête de mettre la pression. » Et elle me le sort de façon très, très régulière.
Elle a encodé le fait qu'elle l'a pris comme une pression.
Elle le prend comme une pression.
Ouais. Moi, je voulais juste rebondir sur l'aspect réseaux sociaux. Et je trouve qu'effectivement, c'est un peu un miroir déformant pour moi, les réseaux sociaux. Et en fait, ça renvoie l'image de la femme belle, sexy, travailleuse, bonne maman. Enfin, ça renvoie un schéma qui n'est pas du tout réel. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes, en fait, se calquent sur ces schémas-là. Mmh. Et forcément, bah, au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Mmh.
Mais jusqu'à quel âge? Parce que moi, du coup, je me dis les réseaux sociaux.
Il n'y a pas d'âge.
Non, il n'y a pas d'âge.
Mais il n'y a pas un moment donné où tu prends du recul, où tu sais qu'en fait, avec ton expérience, que c'est fake, que ces femmes-là, c'est du mytho, et qu'en gros, la vie, ce n'est pas ça.
Il n'y a pas d'âge. Il y a une question d'estime de soi.
C'est ça aussi.
En fonction du contexte dans lequel tu évolues, de l'estime que tu as pour toi-même, de ton cadre familial, de ton modèle, tu ne vas pas avoir la même grille de lecture. Mais n'empêche que comme ce cadre n'est pas... c'est pas un long fleuve tranquille, donc à chaque fois qu'il va y avoir une faille, tu vas quand même regarder de l'autre côté et te dire bah, peut-être finalement que c'est pas vraiment du fake. Et que si moi, j'y arrive pas, c'est parce que... Donc, il y a ce point de comparaison. Et en plus de ça, il y a une hypocrisie. C'est-à-dire que souvent, on n'entend pas beaucoup les femmes leaders qui réussissent, les femmes engagées, parler de leur faille et de leur faiblesse.
C'est vrai.
Sauf quand c'est quelque chose d'assez banal, par exemple la charge mentale. Oui. Ça y est, on en parle tellement, la psychologie, tout ça, on en parle tellement que c'est banalisé. Limite, ça fait beau de le dire. Mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent de la descente. Quand tu montes très vite, très haut et que tu descends très bas, très bas, très très bas, que tu perds tes amis, y a des conflits qui se déclenchent chez toi, avec ton mari, tes enfants, etc. Tout ça, il y a peu de femmes qui en parlent vraiment. Donc en fait, tout le monde te fait croire qu'on peut toutes le faire et on doit toutes y arriver. C'est comme si c'était une obligation, tu t'es lancée, t'as parlé, vas-y.
On doit.
Mais du coup, c'est la pression que les femmes se mettent aussi. Donc, parce qu'entre elles, on n'en parle pas assez. C'est où est la sororité là-dedans aussi? Parce que bien souvent, il y a une compétition en fait, en réalité, entre femmes qui nourrit en fait, à la fois les réseaux sociaux, mais qui nourrit aussi finalement cette envie que chacune peut peut-être avoir et dépasser l'une ou l'autre. Et ça, c'est dommageable. C'est un moment, comment est-ce qu'on arrive à se réunir Tu parlais du réseau Puissance de Femmes. Puissance de Femmes, ce que tu fais, Mariam, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que tu arrives à réunir des femmes qui se parlent entre elles et qui finalement échangent entre elles leurs astuces, leurs tips pour pouvoir en fait finalement gagner en compétences, mais ensemble. Et donc il y a cette volonté en fait de travailler ensemble. Mais tu parlais des réseaux sociaux et les travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est devenu individualiste. C'est qui va être la meilleure, qui va renvoyer la plus belle image. Mais, donc ça met une certaine pression aussi.
Ma question en fait, peut-être que je me suis mal exprimée. Est-ce que là, autour de cette table, quand vous regardez les réseaux sociaux, vous enviez une autre personne, vous dites, elle est. Donc tu vois, au bout d'un moment.
Mais il y en a qui le font, Mariam.
Est-ce que tu peux penser entre. Moi, pour moi, les réseaux sociaux, c'est. Je me répète, c'est fake.
Oui, oui.
Vraiment, c'est fake. Et donc, ça veut dire que là, à notre. Moi, j'ai 40 ans bientôt. Mmh. Aujourd'hui, j'y crois plus à tout
voilà.
Ça.
J'y crois pas.
Moi, tout ça, c'est. Tu vois, je prends pas pour argent comptant ce que je vois sur les réseaux sociaux.
Moi, j'ai envie de dire dans le sens où ce que tu dis. Moi, par exemple, à 40 ans, j'ai l'impression d'avoir une estime de moi qui est assez OK. Pour autant, c'est pas envier d'autres, mais des fois, je suis sceptique. Ça veut dire que des fois, je vais tomber sur certains posts ou certaines personnalités qui vont poster, notamment dans mon champ d'activité. Donc, je vais regarder, je vais analyser un peu les points d'expertise. Et quand même, il y a une petite voix des fois qui arrive et qui me dit « mais je comprends pas en fait ». C'est-à-dire que à compétences égales, à travail égal, qu'est-ce qui va faire que cette personne-là, en fait, on va lui donner du crédit, alors que des fois, dans ce qu'elle va dire, il y a des choses qui, pour moi, semblent limite dangereuses, mais que ça va monter en et que ça devient l'élu sur la thématique. Ouais. Et des fois, c'est vrai que malgré le fait de pas être dans l'envie de l'autre, tu te dis. Des fois, ce n'est pas juste. Des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent ou des personnes qui vont être mises en avant avec un point d'expertise qui, des fois, n'est pas forcément exact. Tu vois, on va parler, par exemple, de la laïcité. Il y a plein de personnes qui parlent de la laïcité, la définition qu'ils en donnent. Mais en fait, il ne faut pas avoir fait des larmes ou un dictionnaire. Tu vois bien que c'est à côté de la plaque. Et pourtant, cette personne, on va la rappeler, lui donner un temps de parole et...
une crédibilité à travers ça aussi.
Voilà, une visibilité du coup qui permet.
Et ça, c'est pas une question de grandiose ou quoi que ce soit. Je pense que c'est humain en fait.
Ça, je le comprends. Parce que là, du coup, là, on est plus sur le volet professionnel et autres. Mais quand on parlait d'estime de soi et qu'en gros, ça peut détruire une estime de soi, enfin, de ce que tu vois sur les réseaux.
On en revient à ce que disait Amy au début. Je pense que ça tout part vraiment de là, en fonction de ton expérience de vie, de ce que tu reçois pas l'information de la même manière. Toi et moi, on va la recevoir, on va savoir que derrière, elle a fait 50 fois ça, puis elle a commandé ses trucs chez Deliveroo, elle fait quoi qu'elle a fait.
Mais je pense aussi, tout à l'heure, Mariam, tu parlais d'âge, tu disais 40 ans, je pense qu'ici, on est tous des quarantenaires. Nous, on a été sauvés, nous.
Pourquoi ?
Moi, je trouve que nous, on a été sauvés. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, on les connaît parce que ça fait partie des outils indispensables. Mais nous, on s'est construit sans. C'est-à-dire qu'on avait une vingtaine d'années, il n'y avait pas de réseaux sociaux.
Exact.
Donc, on s'est construit sans. Alors que la génération d'en dessous, je vais dire 10-15 ans en dessous, ils se sont construits avec. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre les relations hommes-femmes ou bref, les deux couples. Se font via les réseaux sociaux. Nous, c'était pas ça, nous.
Oui, c'est vrai.
Par exemple, il y a plein de choses en fait qui se font aujourd'hui via les réseaux sociaux qui, nous, à notre époque, ne se faisaient pas via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, s'il y a un bug, pour parler clair, s'il y a un bug des réseaux sociaux, nous, on s'en sort.
Oui, ça, c'est vrai.
Alors qu'il y en a certains.
Et pour aller plus loin, même au niveau de. Tu parlais des relations, mais ça va aussi de la notion de la réussite. Qu'est-ce qu'est la réussite ?
Bien sûr.
Aujourd'hui, la demoiselle qui vit à Paris, elle se compare à Kim Kardashian, à des personnes qui sont à des années-lumière d'elle. Et forcément, elle se dit qu'elle est moins bien. Et ça joue effectivement dans la construction parce qu'en fait, on se compare à des personnes qui sont à des années-lumière. Et surtout, on ne voit que la lumière.
Je pense qu'on va être attiré comme les autres parce que voilà, on nous donne une image qu'on a envie d'atteindre. Donc, ça nous attire. Mais on a ce recul. Et je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que le fait de ne pas avoir grandi avec les réseaux sociaux nous permet d'avoir ce recul et de se dire « Ok, mais ça, c'est l'image qu'elle donne. Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Derrière son intérieur tout propre. On sait pertinemment que derrière la caméra, il y a tout le bazar qu'elle a été mettre. Tu vois, on arrive à avoir ce recul.
On se sait.
Exactement. On a balayé d'un revers de main.
C'est ça, bien sûr.
Mais c'est l'âge. Tu parlais de génération. C'est la génération. Je vais donner un exemple tout bête, très rapide. Moi, par exemple, ma fille qui a 15 ans, en ce moment, je suis en train de lutter et je joue à cache-cache avec le fer à lisser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a des... bon, après, elle me dit, mais oh, je tiens de papa parce que moi, j'ai les cheveux lisses et son père, les cheveux plus frisés. Et du coup, elle a les cheveux, mais de beaux cheveux bouclés. Et en ce moment, elle n'arrête pas de me dire, mais non, tu te rends pas compte, tu ne sais pas, maman, la beauté, c'est les cheveux lisses. Donc, quelle est l'image qu'on renvoie ? C'est ça aussi, les réseaux sociaux.
Ça, on a toujours eu ce problème.
Donc, voilà, je suis d'accord.
Il n'y avait mais pas les réseaux. Hein. Nous, on avait les cheveux crépus, on voulait les cheveux lisses.
C'est vrai. C'est vrai.
Parce que je vois qu'il y a les cheveux raides, je les voulais boucler.
Alors, encore maintenant, on a évolué normalement. Et en fait, cette image, tu vois, donc quand même de papier glacé, ça reste en fait pour ces générations-là. Alors que tu penses qu'en réalité, les choses évoluent, les réseaux sociaux en fait viennent et apportent aussi une nouveauté, rapportent de nouvelles choses. Et en fait, tu vois qu'en réalité, c'est le serpent qui se mord la queue et on a toujours ces valeurs de où il faut être belle, il faut avoir les cheveux lisses, il faut, voilà cette image. Et donc, malheureusement, tu as encore des femmes qui tombent dans ces pièges-là.
En plus, 10 000. Parce que du coup, il y a des échos de personnes de leur génération
en plus,
qui véhiculent des messages. Et qui
Justement, à l'ère où on revendique une place plus égalitaire des femmes dans la société, là, on parlait des réseaux sociaux. Moi, j'aime bien parler aussi des réseaux de soutien. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui joue sur notre rôle à nous dans l'hypersexualisation des femmes? Ça veut dire que, avec le féminisme et toutes ces choses, on entend plein de choses qui viennent aussi déconstruire nos enfants, nos filles. Oui. On parlait de nos filles, nos adolescentes qui entendent on peut tout faire, on a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps, avec qui on veut, le polyamour. Et puis en plus, pour vendre, il faut montrer son fessier. Je veux vendre une paire de chaussures, ça n'a rien à voir, je suis en maillot de bain. Et du coup, tout ça, quels sont les tips et astuces ou le regard que vous avez sur ça? Parce qu'il y a aussi la transmission pour nos enfants. Donc, on a l'ère des réseaux sociaux qui nous sert de modèle de communication. Comment on communique? Qu'est-ce qu'on laisse? Et comment nos enfants se construisent à travers notre héritage?
C'est une bonne question.
J'ai l'impression que ça a toujours existé. Enfin, moi, je me revois jeune, j'avais pas les réseaux sociaux et pour autant, il y avait un modèle de la beauté qui faisait qu'il fallait être comme ci ou comme ça. Donc, je pense que ça a toujours été. Moi, ce que j'essaye de faire avec mes enfants, c'est de les aider à développer en fait leur propre réflexion sur les choses sans pour autant rentrer dans un moule qui serait préconstruit là. Donc, en fait, c'est de se dire, ok, moi, j'ai une de mes filles qui est un petit peu ronde. Je vais pas l'aider à faire des régimes en fait. Je vais pas lui dire fais des régimes, perds du poids. Non, je vais l'aider à s'aimer comme elle est. Après, si elle a envie de faire des régimes quand elle sera plus grande, ça la regarde. Mais en tout cas, c'est de lui dire aime-toi comme tu es. Et là, tu vois, ma plus grande victoire, je le partage avec vous. Pas plus tard qu'hier, elle m'a dit maman, finalement, mon corps, je l'aime bien. Bon, j'ai un petit peu de ventre, tout ça, mais bon, si je le perds. Mais c'est une super victoire pour moi parce que je me dis c'est ça en fait qui va être important. Et j'essaye, mais sur toutes les questions en fait, de leur dire mais toi. Au-delà des réseaux sociaux, au-delà de ce que tes amis disent, au-delà de ce que moi-même ou ton père ont dit, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi pour toi? Et ça, ça les aide vachement, je trouve, à prendre aussi ce recul qu'on a peut-être parfois nous-mêmes du mal à prendre. Parce que, encore une fois, quand on est mère, on veut le meilleur pour nos enfants et voilà, on a envie de leur tracer un chemin.
Les filles?
Alors, je suis d'accord sur tout. Je réfléchis exactement de la même manière, j'agis de la même manière, sauf sur le début. Où je pense que c'est beaucoup plus exacerbé qu'à notre époque. Je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, la sexualité, elle est banalisée, à mon sens. Complètement banalisée. Et moi, ma fille, elle a 13 ans. Et j'ai des discussions avec elle que je n'aurais jamais imaginé avoir de ma vie. Ou du moins, pas si tôt.
Ouais, je suis d'accord.
Pas si tôt. Et vraiment, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est la décontraction avec laquelle elle m'en parle. C'est vraiment, c'est du même niveau que j'ai mangé une pomme, quoi.
Et en même temps, excuse-moi, je trouve que ça veut dire, ça indique aussi que tu as réussi à faire avec ta fille quelque chose qui est difficile, c'est-à-dire créer ce lien de confiance qui va lui permettre de pouvoir avoir ce genre de discussion avec toi, de façon décomplexée, justement. Et je trouve que c'est génial, parce que ça veut dire qu'on... Quand on arrive, je pense, à faire ça, c'est qu'on arrive aussi à se caler à cette société qui nous dépasse aussi un peu parfois, parce que je t'avoue aussi que j'ai eu des conversations un peu lunaires avec certains, enfin avec mes enfants, mais pourquoi on parle de ça maintenant? Mais du coup, je me dis que d'un autre côté, cool, j'ai bien fait mon job, enfin en tout cas, j'espère.
C'est ce que je me dis aussi.
Du coup, c'est quoi le job? Parce que du coup, moi, je sais que nous, en tout cas, je parle de nous, c'était délicat, en tout cas,
tabou.
Il y a une pudeur.
Oui, voilà, la pudeur,
tu vois, une pudeur, même parler de sexualité avec ses parents, tout ça. Et je pense que c'est générationnel, parce que là, oui. Moi, je vous écoute, parce que là, mes enfants, ils sont encore petits, donc je ne suis pas encore confrontée à ça.
Ça va venir très vite, Maria,
à partir du CP. Ouais.
Je
ne
suis pas encore confrontée à ça, mais moi, je vois l'écart. Nous, on est une grande famille, on est 10 enfants. Les aînés, la génération, enfin notre rapport à ça avec nos mamans, et ben c'est pas le même que les dernières qui ont les années 90 là.
Ah
les
ben
années,
carrément.
Enfin même 90 années. 2000, elles sont pas encore 2000. Elles, il y en a une à 99, une 97, 2000. Donc elles se sont sauvées. Elles disent on n'est pas des 2000. mais du coup même je vois cette proximité, cette façon de parler, facilité de parler de sujets que nous on n'osait pas à nos parents. Donc je pense que c'est aussi générationnel
je
aussi
pense que
là-dessus.
Ça joue aussi ouais. on est une génération qui est beaucoup plus ouverte. Moi ma fille, la première fois qu'elle m'a parlé de sexualité, c'était en CM1. Et j'ai un rituel avec mes enfants quand ils reviennent de l'école, c'est que je leur demande toujours de 1 à 10 comment s'est passée la journée, ça me permet de jauger un peu. Et après je lui dis t'as parlé de quoi? Et on était sur le canapé, il y avait son père qui était sur le côté, et elle nous dit j'ai parlé de sexe, tu veux que je te raconte? Lui, il m'a dit salut.
Oui, c'est vrai que souvent, ils ont tendance à se sauver, ouais, c'est vrai. C'est
et compliqué. Me voilà en train de parler avec ma gamine de 10 ans de sexualité.
Oui. Oui, toi, ils sont plus vieux, il me semble.
Moi, je suis dépassée. Alors moi, je suis passée au stade où on me présente les petites copines.
Ah.
Oh.
Enfin, pas totalement physiquement, mais on parle de la petite copine. Elle te follow sur Insta, il faut que tu la follow back. C'est compliqué. Et la grande, alors elle ne va pas rentrer dans la sexualité. Ils ont un peu une éducation quand même à l'ancienne. Ouais, encore. Mais par contre, c'est tout. Elle t'embraye sur les mariages. Il faut se marier, il faut avoir des enfants. J'ai hâte de me marier, etc. Tu vois.
Ouais.
Mais si pointu en discussion, non. Après, moi, j'ai les grands frères aussi qui prennent le relais, donc peut-être qu'ils le font avec les frères.
Alors là, juste pour recontextualiser, c'était dans le cadre de l'école. Donc
oui,
c'était
non,
vraiment
je comprends.
Un devoir.
Oh, ouais.
Mais nous deux s'y collent.
Là, non.
D'accord.
J'ai échappé à ça.
Ouais. Moi, par contre, la question que je me pose, c'est justement cette ouverture d'esprit. Quelle incidence ça va avoir? Parce que je pense que c'est aussi générationnel. Moi, il y a des choses qui me dépassent complètement dans la sexualité. Enfin, tu parles de polyamour, etc. Après, ça, c'est en lien avec des valeurs que j'avais. C'est vrai que, bon, par exemple. Et je me dis, de leur laisser ce champ d'action, de pouvoir discuter sur tous les sujets, d'être ouverte, machin, est-ce que j'ouvre pas aussi des portes que j'ai pas envie d'ouvrir.
C'est à ça que je pensais tout à l'heure.
Bah, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de l'éducation encore à l'ancienne. Moi, je te rejoins, puisque moi, mes 5 enfants, je les ai éduqués à la fois de manière à ce qu'ils puissent venir me parler, mais en même temps, voilà, qu'il y a des questions quand même où, voilà, il ne faut pas parler forcément de ces genres de choses, avec papy, par exemple, dans le salon, avec nous. Sinon, papy, voilà, va un peu se sentir mal. Mais en même temps, de pouvoir discuter. Et je mettrais même le point sur, au-delà de la sexualité, c'est le corps, en fait. Le corps de son propre enfant. Donc, moi, une petite anecdote. Mon aînée, j'ai eu énormément de mal à me dire qu'elle va être pubère. Et pour lui expliquer, j'ai mis du temps, en fait. Parce que pour moi, ça voulait dire qu'elle grandissait et qu'elle était, voilà, une jeune fille. Et non pas, bah, c'est naturel, c'est la vie. Et pourtant, j'ai été élevée ici, j'ai grandi ici, mais avec les valeurs, effectivement, encore à l'ancienne. Mais je m'étais dit, voilà, moi, quand j'aurai mes enfants, je les élèverai de telle et telle manière. Tu parles. En fait, j'ai énormément de mal à lui expliquer ce que c'était, les règles, etc. Et j'en ai pleuré. Mais c'est idiot, c'est bête, j'en ai pleuré.
Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que l'adolescence, c'est un cap plus finalement pour le parent que pour l'enfant.
Mais oui,
dans le sens
mais
où
oui,
en
moi
fait,
j'ai vécu comme
une
ça.
Adolescence qui se passe bien, c'est aussi un parent qui accepte que son enfant grandisse, que le cordon se coupe un peu. Qui est... Et je trouve que c'est, voilà, ça reflète tout à fait ce que tu dis.
C'est marrant ce que tu dis, parce que moi j'ai eu une éducation complètement inverse avec ma fille.
D'accord.
Moi quand j'ai eu mes règles, j'en avais jamais entendu parler. Donc la première fois que j'ai eu mes règles, j'ai cru littéralement que j'allais mourir.
Oui. Mmh.
Ça m'a traumatisée.
Mmh.
Et je me suis dit, ma fille ne revivra pas la même chose.
Moi, je m'étais dit la même chose. Barbara, c'est le problème. Mais je n'ai pas fait.
J'ai essayé de me mettre sous la table.
Justement, nous, on te met sur la table. Justement, comment ça se concrétise chez toi, tout ça? Parce que tu n'as que des filles, elles ont entre 12 et 17 ans, donc ces questions-là, elles sont là, comment ?
Tu es à l'aise pour parler de sexualité avec
elles ? Moi, j'ai une femme qui n'a pas forcément de tabou, donc qui parle de tout facilement avec mes filles. Mais c'est vrai que même si je sais que je suis ouvert, j'essaye quand même de faire figure de, pas d'autorité, mais de barrière, un peu de limite. Mmh. Parce que je trouve que, parce qu'on met ça sous le coup de, des avancées, l'émancipation, l'ouverture, l'évolution. Mais moi, je trouve qu'il y a du mauvais dans tout ça. C'est-à-dire que, en fait, les enfants sautent les étapes trop vite. Donc, c'est bien de discuter, comme tu le disais tout à l'heure, le fait que ton enfant soit en confiance et vienne voir le parent, c'est ce qu'il faut, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal.
Quoi qu'il arrive.
Mais maintenant, moi, je suis partisan du fait que quand même les enfants doivent craindre certaines choses, doivent craindre certaines discussions, ou en tout cas, doivent avoir des barrières, des limites. Et pour moi, il y a des moments où tu peux aller voir ton parent et lui parler de certaines choses. Parce que le fait de... Parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à comprendre ceux qui disent que oui, moi, mes enfants, s'ils m'en parlent, c'est bien, ils peuvent me parler de tout. Mais j'ai l'impression que lorsqu'on peut parler de tout et que c'est open bar, eh ben, ça favorise.
C'est
ça, le passage à l'acte.
Ça rejoint ce qu'elle disait.
Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est cette impression-là. C'est-à-dire que moi, j'essaye de mettre des limites en disant oui, vous pouvez nous parler tout, bien entendu. Parce que moi, je préfère que ma fille vienne me parler plutôt qu'elle soit dans son coin et que ça engendre des problématiques derrière. Mais mes filles savent que, bon, papa, c'est gênant.
Je pense que en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est... Et c'est ambivalent. Mmh. Autant on demande l'émancipation, l'avancée, etc. Mais moi, je sais que j'aime bien jouer aussi sur le fait de bien me parler, mais fais gaffe, papa. Voilà. Fais gaffe quand même. Ouais. Tu vois, mais quand je dis fais gaffe, c'est surtout, comme Anne le dit, c'est cette limite. Ça veut dire, OK, on peut en parler. Moi, ce que j'aime bien faire avec mes filles, c'est surtout développer leur esprit critique. Ouais. Ça veut dire que je vais m'appuyer sur une situation, quelque chose qui s'est passé, un fait divers, un film. Je vais les questionner sur ce qu'elles en pensent. Tu vois, là, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de couples homosexuels à la télé. Qu'est-ce que tu en penses? Et sans orienter, sans dire c'est bien, c'est mal, mais juste de voir où elles en sont dans leur esprit critique, qu'est-ce qu'elles vont dire, etc. Et elles s'auto-régulent. Et après, quand même, la pudeur, mais ça, je pense que les enfants savent très bien le faire. Et ils savent nous dire, quand on les écoute, et qu'on ne va pas plus loin qu'eux dans l'envie de d'échanger, ils savent nous dire quand c'est gênant. Et souvent, ce qu'on remarque, et on le voit beaucoup lors des cafés des parents, quand on aborde la question de comment aborder la sexualité avec nos enfants, le parent va trop loin. L'enfant n'a pas envie d'aller aussi loin.
C'est vrai.
Et en fait, tu n'écoutes pas, tu veux juste... paraître open, mais non, ton enfant il est en train de te dire que c'est gênant, donc arrête-toi là et reviens un peu plus tard en fonction d'eux ou
qui appuie-toi d'où il en est lui.
Exactement.
En fait.
Et puis les mots sont importants aussi.
Bah, le mot là en l'occurrence phare, c'est l'écoute. En réalité, l'éducation, l'écoute, et quand on dit effectivement et on transmet ça à nos enfants, parce que c'est ça, c'est la transmission, on passe par la transmission. On parlait tout à l'heure de modèles et autres, bah, c'est la même chose. Tu peux te poser la question, Mariam, comment on va évoluer? Enfin, les enfants, c'est qu'au fur et à mesure, on grandit aussi avec eux. Nous aussi, on fait des erreurs, on tâtonne, mais la base, c'est vrai, c'est qu'on leur dit clairement, aujourd'hui, vous pouvez venir nous parler, chose qu'on n'a pas forcément connue parce que c'était effectivement tabou avec nos anciennes générations, mais il reste une limite et c'est vrai que ça se fait instinctivement quelque part, mais ça vient de l'écoute, de la confiance aussi qu'on met entre nous et aussi avec l'éducation avec le partenaire. Oui. Parce que tu parlais du rôle, tu vois, du père, de la mère, c'est aussi quel rôle aussi, voilà, parce que quand tu as des parents qui ne sont pas d'accord sur l'éducation aussi,
c'est problématique,
hein, tu vois. Donc,
et en même temps, c'est important de passer le relais. En tout cas, moi, je sais que je m'efforce à le faire, même quand Anne est mal à l'aise, dans le sens où on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et moi, je dis toujours à mes filles, il est hors de question, en fait, que si maman n'est pas là ou n'est plus, tu restes avec tes blocages parce que la figure parentale, ce sera ton père. Donc, il faut mettre une nuance entre pudeur et gêne et limite, dans le sens où, par exemple, tu es indisposé. Et c'est arrivé une fois, elle était indisposée, elle n'avait pas de serviette, elle m'envoie un texto. Et moi, je lui dis, mais je ne suis pas rentrée maintenant. Enfin, demande à des sous à ton père. Et elle me dit, oh, la honte. Je dis, d'accord. Sauf que ça fait partie de la vie et que ça reste ton père.
Bon,
c'est-à-dire, on ne t'a pas demandé de...
Moi, tu m'avais déjà envoyé aller en chercher.
Et je pense que ça, ça fait partie aussi de l'éducation à la relation affective. Parce que plus tard, quand tu as des garçons, le fait de les accompagner, de les faire conscientiser, ils prendront soin de leur compagne différemment lorsqu'elles seront... elle-même indisposée. Donc, c'est le cycle de la vie. Et après, respecter la pudeur, ça veut dire que, bah oui, c'est important que personne dans la maison sache à quel moment tu es indisposée ou pas, tant que tu as tout ce qu'il te faut, que tu as nettoyé derrière toi, etc. Et je pense que le juste milieu, c'est entre la communication, l'échange, l'écoute et l'éducation. Les valeurs, le respect de soi-même, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, et de pas hésiter à reprendre son enfant en disant, bah là, je réponds à ta question, mais peut-être que c'était pas le cadre. La façon dont tu as amené les choses, c'était pas le cas, ni le moment. Tu n'as pas fait attention à qui était dans la pièce, etc. Et du coup, de bien les accompagner à comprendre que bah, tout peut être discuté, mais dans un cadre. Et on ne peut pas amener les choses n'importe comment, ce que tu disais tout à l'heure. Ce n'est pas quand tous les amis sont à la maison, que ta grand-mère, bien grand-père, sûr. Que tu viens au milieu du salon et tu dis « Maman, je bande !» pourquoi je suis dure Non, ça, tu ne peux pas. Et là, ça passe très vite, une heure et demie. Quels sont les tips, les conseils que vous pourriez peut-être donner, même si je rappelle aux auditeurs que rien n'est à prendre comme ça vient, mais ça peut donner des idées de comment on gère sa vie familiale, entrepreneuriale ou pas, de femme engagée, et sa vie de mère, finalement. Comment est-ce que chacune d'entre vous pouvait donner un ou deux conseils, soit qu'on vous a donné, qui était très bon, soit que vous expérimentez, ou peut-être un signe d'alerte, quelque chose qui peut alerter en disant, tout à l'heure, Ouri a donné un exemple parfait en disant, bah voilà, aujourd'hui, je suis dans un questionnement où je ne sais pas où est mon équilibre, bah, des fois, ça peut juste être ça, le signal d'alerte qui se dit, bah, attends, prends du recul et demande-toi qu'est-ce qui est important pour toi, finalement, pour toi, pour ta famille.
Moi, je veux bien commencer sur le conseil. Je pense que il faut que déjà, chacune, à notre niveau, on définisse ce qui est pour nous la réussite. La réussite, c'est un terme qui est galvaudé, on y met tout dedans et ma définition ne sera pas la même que toi ou que toi. Bien Donc, sûr. C'est déjà important de se dire c'est quoi pour moi la réussite ? Est-ce que la réussite, c'est d'exploser au niveau de mon boulot et d'être connue et reconnue ? Est-ce que c'est d'être une mère présente ? Est-ce que c'est un espèce de mix de tout ça ? Et je pense que ça, c'est important déjà de pouvoir mettre ces limites-là et de se dire ok, si demain je me retourne sur ma vie et que je me dis ouais, j'ai réussi ma vie, ça voudra dire que j'ai réussi quoi ? Et je pense que ça, c'est super important. Et puis, il y a aussi cette idée, je pense, d'être entourée. Alors, c'est important, on parle des conjoints. Et c'est vrai que j'ai aussi, comme vous, la chance d'avoir un conjoint qui me comprend, qui est présent, qui est aussi un peu dans les mêmes sujets que moi. Donc, on aime bien se dire qu'on forme une équipe. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir avoir cet échange-là. Mais c'est important aussi, je pense, d'avoir un réseau autour de soi de femmes qui sont dans les mêmes discussions que nous, qui sont dans les mêmes problématiques et qui vont nous permettre aussi de pouvoir prendre du recul comme on fait aujourd'hui.
Je crois que c'est ton mari qui nous appelle.
Ah, tu crois ?
Ouais, je crois qu'il est trop content d'entendre. Je crois que c'est ça.
J'ai parlé de toi, chérie, t'as vu ? Ouais, et donc de pouvoir être entourée, d'avoir un réseau de femmes aussi autour de soi qui traversent les mêmes choses que nous et qui peuvent nous comprendre et qui nous permettent de prendre aussi ce recul comme on est en train de faire aujourd'hui.
Moi, j'en parlais tout à l'heure avec Puissance de Femmes, de la sororité. Parce qu'il y a les bons côtés de la sororité, mais il y a aussi peut-être des mises en garde à faire sur ce genre de...
Oui. Bah justement, moi, je pourrais rebondir sur ce que tu disais, Virginie. Moi, pour moi, conseil, en réalité, comme tu le disais tout à l'heure en préambule, les conseils qu'on pourrait donner, c'est ce qui nous aide au quotidien. Maintenant, c'est pas dit que ça aide telle ou telle femme. Maintenant, comment est-ce qu'on s'en sort clairement ? Moi, aujourd'hui, je rejoins un peu ce que tu disais, Virginie. Il faut savoir s'entourer, déjà dans un premier temps. Entourer à la fois par un compagnon, effectivement, qui peut être présent et qui peut comprendre, en fait, ton engagement. C'est mieux. Donc, si c'est possible, sinon, bah, voilà, on fait avec ce qu'on a, entre guillemets. Mais avoir aussi quand même un réseau autour de soi.
Est-ce qu'on dit qu'on est mal accompagné à ce moment-là ?
Ouais. Ah, c'est une bonne question. Non, j'irai pas jusque-là, parce qu'en fait, en réalité, est-ce que la personne voit réellement ce que tu fais, comprend ce que tu fais, voilà. Donc,
c'est encore un autre sujet.
C'est un autre débat. Donc, on pourrait, voilà aussi. Tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est plus complexe que ça, en fait. Mais je dirais que déjà, si au niveau de l'accompagnement, même aussi réseau de femmes, tu parlais d'amis. Moi, je suis entourée d'amis aussi, d'autres que j'ai perdus avec le temps, parce que c'est des amis. Je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des amis. On parlait de sororité, c'est des personnes qui étaient là juste pour profiter de la personne que tu étais, etc. Ça aussi, il faut savoir se le dire. Et voilà. Et pour moi, la base, pour moi, c'est mon socle familial. Moi, c'est mes enfants. Je sais pourquoi je me lève le matin, pourquoi je me couche le soir. Et aussi parce que j'ai une colonne vertébrale. C'est depuis mon burn-out, on en parlait tout à l'heure, c'est de me dire qu'aujourd'hui, je fais que ce que je veux. J'ai la chance de pouvoir dire aujourd'hui, je ne fais que ce que j'aime et ce que je veux. Bien sûr, des fois, je me retrouve dans des choses où voilà, je n'ai pas forcément choisi, mais j'essaye en tous les cas de bien le vivre. Et après, au quotidien, parce que je fais plein de choses et j'ai énormément de casquettes, je suis très organisée. C'est-à-dire que moi, chez moi, c'est pas militaire, mais un petit peu. Mais voilà, j'ai par exemple, ma fille de 5 ans, c'est mettre la table parce que j'ai changé ma cuisine de manière à ce que mes filles, parce que j'ai mes deux petites dernières qui ont 5 ans et 6 ans et demi, qui savent mettre la table, qui savent se débrouiller. Mes grandes, quand je ne suis pas là, quand leur papa travaille aussi beaucoup, du coup, ils savent aussi être autonomes. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là où j'ai tout simplement aussi fait accepter à mes enfants mes absences. Mes absences, ils savent que c'est pour la bonne cause parce que voilà, ils savent que maman n'est pas là parce que elle fait ce qu'elle aime et voilà, elle se bat aussi pour les autres. Et la meilleure victoire, tu disais tout à l'heure, ce qui touche, mon aînée qui me dit, parce qu'elle est en seconde, elle veut être psychologue parce qu'elle a vu maman accompagner des personnes et elle se trouve utile. Donc tu te dis que quelque part, tu vois, voilà, ça fait son chemin aussi chez tes enfants. Oui. Donc voilà, c'est être organisé, être bien entouré et être surtout comment dire, droite dans ses bottes avec ses valeurs. Ne jamais renier ça, en fait. Dès lors où tu ne renies pas tes valeurs et ton héritage, entre guillemets aussi, parce que je le porte aussi beaucoup, cet héritage-là de mes parents et de ma mère particulièrement. Je pense que ça, c'est important pour moi.
Sierra,
Je vais rebondir du coup sur ce que tu disais. Déléguer, effectivement, ça, je pense que c'est vraiment la clé. Dès le petit âge, moi, mes enfants, très tôt, j'ai fait en sorte qu'ils soient autonomes. Aujourd'hui, à 13 et 15 ans, ils font leur vie, très clairement. et la deuxième chose pour moi qui est vraiment importante, c'est de lâcher prise. De lâcher prise sur le fait de vouloir être parfaite. Et ça commence tout bêtement parfois par son intérieur. Ça commence parfois par se dire, finalement, c'est pas si grave. Passer un bon moment avec mes enfants, c'est peut-être plus important là, tout de suite. Et puis après, je leur demanderai de ranger. C'est aussi choisir ses combats. Mmh. Voilà.
Anne ?
Tu peux reposer la question.
Bon, elle était orientée vers les femmes, donc c'est normal
c'est
que
ça.
T'aies... Non, mais du coup, mais est-ce que toi, tu as des conseils à donner, ou en tout cas, de ton expérience, de ton vécu, aux femmes leaders, mères et entreprenantes engagé, pour justement que les choses se passent bien. Par exemple, toi, en tant que conjoint, quelles sont les choses sur lesquelles tu te dis, tiens, peut-être que là, il y a une alerte.
La première des choses, même je pense la plus...
Conseil ou alerte, hein.
Plus importante, c'est de ne pas s'oublier. Parce que c'est bien de faire beaucoup de choses. Parce que souvent, ces profils de femmes veulent, et tu l'as dit tout à l'heure, veulent sauver le monde. Mais à un moment donné, en voulant sauver le monde, tu te perds. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'oublier.
C'est tout ?
C'est tout.
C'est pas mal, non ?
C'est déjà très
bien.
Tu
vois, les hommes, ils sont pragmatiques.
C'est ça, les hommes, voilà l'essentiel. Excellent.
Marianne ?
Moi, je fonctionne beaucoup. Hein. C'est mon mantra et mon curseur, c'est prendre du plaisir. Si je prends plus de plaisir, ça veut dire qu'il faut arrêter. Entreprendre, ça te prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de place. Mais tant que tu prends du plaisir dans ce que tu fais, voilà. Moi, c'est vraiment mon jeu à moi, c'est de me dire je prends du plaisir, j'aime ce que je fais, et donc voilà, donc je continue. Et s'il n'y a plus de plaisir, ça veut dire qu'il faut changer, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je vois.
Ori ?
Moi, c'est être aligné. C'est-à-dire qu'il faut que je kiffe ce que je fais. C'est ce que je vous ai toujours dit d'ailleurs dans tous nos voyages. J'ai besoin d'être vraiment en kiff de ce que je fais. Comme toi, s'il n'y a pas de plaisir, ce n'est pas la peine. Qu'en dira-t-on, sincèrement, j'en ai jamais fait mon affaire. Donc, c'est pour ça aussi le détachement avec les réseaux sociaux, parce que ça ne nous définit pas, ça ne dit pas qui on est aujourd'hui, qui on sera demain. C'est que du fake. C'est un outil, en fait, pour moi. Pas plus. Pas envier l'autre.
Ça sert à rien.
Mais complètement, ça ne sert à rien. On est tous différents, on a tous des aspirations différentes. Et la vie, c'est une blague. La vie, elle est courte. Il faut profiter et il faut faire ce qui t'anime. Tu vois? Parce que si tu prends plaisir à chaque jour où tu te lèves et pas avoir cette boule au ventre, t'as réussi. Mais comme tu dis, la réussite, elle est propre à chacun. Moi, ça, c'est un critère de réussite. Si je me lève pour faire quelque chose qui me fait kiffer et que je me couche avec la banane, j'ai réussi.
Moi, d'être une bonne personne. C'est ce qui m'anime, en tout cas, c'est ma règle d'or au quotidien, d'être une bonne personne avec mes proches, mais même avec les gens que je ne connais pas, les gens que j'accompagne. Et du coup, d'être une bonne personne dans le milieu professionnel aussi. C'est-à-dire que partout où je passe, limite, mon seul challenge, c'est de sortir de là en me disant t'as kiffé, t'as essayé de faire du bien, peut-être que t'as réussi, peut-être pas. Mais en tout cas, la personne qui est en face de toi, elle a ressenti de l'amour avec force. Et la deuxième chose aussi qui m'anime et qui régit mes journées, c'est que je veux qu'à chaque instant, mes enfants puissent se regarder dans une glace, me regarder, observer ce que nous on fait sans jamais avoir honte, sans jamais craindre la polémique et en se disant ce qu'ils font, eux, ils s'éclatent. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas terrible, mais en tout cas, j'ai pas honte de mes parents. Et vraiment, c'est important pour moi de transmettre des valeurs de respect. Et ça, c'est vraiment ce que je dis à mes enfants tous les jours. Respecte-toi, mais respecte les autres. Et si tu gagnes ton pain en manquant de respect ou en enlevant de la bouche de l'autre, ça vaut pas. Donc, donne tout ce que tu as à donner, puisque de toute façon, quand l'autre montre, tu descends pas, toi. C'est-à-dire que toute la force que tu donnes aux autres, elle te fait pas descendre. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui sont utiles. Et après, tout à l'heure, Anne a dit, le tailleur ne va pas à tout le monde. Et moi, je pense quand même que c'est important de garder ça en tête pour nous-mêmes comme pour les autres. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, le tailleur nous va, mais on peut maigrir, on peut grossir. peut-être que dans quelques années...
Pas mal.
Et du coup, je pense qu'en fonction de notre morphologie, il ne faut pas hésiter à déposer le tailleur. Il ne faut pas se dire, j'ai dit que j'y allais, alors j'y vais à tout prix. Et je pense que le plus gros challenge pour nous, les femmes, ça va être ça. Ça va être de prendre notre part dans la société, mais aussi d'accepter de se dire que... Là, je suis fatiguée, je ne peux plus, je ne veux plus, j'y arrive plus. Et de pas emmener tout le monde dans le puits parce qu'on a cette obligation de... On a l'obligation de rien, en fait. À part, comme tu disais, de s'éclater et de prendre du plaisir. Barberiche, les pieds dans la tasse, c'est pour toi les dernières minutes.
Ouais, j'ai deux questions. D'habitude, j'en ai qu'une, mais là, j'en ai deux. Vous m'avez inspiré beaucoup. Être femme, mère, leader, n'est-ce pas la hantise de certains hommes? Première question.
Sujet philosophique, vous avez deux heures.
Et la deuxième, c'est être femme, mère, leader est à la mode. Ce qui est à la mode est voué à se démoder. Va-t-on vers une série de burn-out en cascade?
Oh, finesse.
Tu parles une réponse rapidement?
Oui, oui.
Comme ça. Une femme leader, oui, elle fait peur.
Oui.
Aux hommes, elles font peur.
Bien sûr.
Moi, j'ai déjà échangé avec des amis masculins. On fait flipper, en fait.
Ouais.
On paraît incontrôlable.
C'est ça.
Tu vois, on peut faire ça. Du jour au lendemain, on peut se barrer parce qu'en plus, on est autonome.
On est autonome et il y a une liberté.
Ouais. Et vous nous retenez avec rien. Mmh.
Et c'est donc le message, c'est de se dire aussi avec ou sans toi.
On
vit. Avec ou sans toi, t'es là, c'est du plus. C'est ça. Mais si demain, t'es pas là, je continue.
Et en fait, il y a même. Tout à l'heure, Auri, tout au début, t'as dit j'ai pas été gentille avec mon mari. Et moi, je me rends compte que par moment, c'est pas très gentil.
Pas gentil, oui.
Que par moment, c'est pas très, très gentil ce qu'on peut renvoyer dans. Moi, je suis très attachée à mon libre arbitre, mais déjà avant même d'entreprendre. Mais alors aujourd'hui, ce que tu dis, ça résonne tellement fort. En fait, on renvoie aux autres ce. Je vais le faire avec ou sans toi. Que tu le veuilles ou non. Alors que depuis le début, on s'accorde tous à dire que c'est aussi grâce à vous qu'on peut aller aussi loin dans nos ambitions. Et pourtant, Ouais. Faut pas trop nous freiner. Faut pas. Et oui, ça fait peur.
Mais c'est violent.
D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui ont réussi, qui finissent seules.
Oui, c'est pour ça que
c'est prix à payer souvent.
Mais c'est pour ça que c'est un peu étrange, parce que du coup, on se retrouve toutes. Mais je vais pas dire qu'on est des exceptions, mais on est quand même encore.
Oui, en couple.
C'est vrai que c'est pas moyen, c'est que les exceptions en fait.
C'est parce que depuis tout à l'heure, tout le monde est en couple accompagné.
Non, moi j'allais dire peut-être on n'est pas arrivé justement.
Mais j'ai une question, mais après je connais pas forcément les parcours de chacune. Mais est-ce que c'est pas parce que cet entrepreneuriat est tardif?
Non.
C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas, pas construit votre vie de famille avant et l'entrepreneuriat est venu après?
Non.
Donc, du coup, il y avait quelque chose de solide.
Moi, j'ai toujours entrepris.
Moi, c'est au contraire. Moi, voilà.
Pour ma part, oui. Quand
ouais, pareil.
Pour ma part, oui.
Okay. Okay. Moi, je pense surtout que peut-être qu'un point de commun qu'on a là autour de cette table, c'est les valeurs de la famille.
Exactement.
En fait, ça a été dit de façon indirecte tout au long de l'échange. C'est-à-dire, on a parlé de nos maris, on a parlé de nos enfants, on a parlé de nos parents. Et en fait, je pense que quand les valeurs familiales sont fortes et que ton envie de réussir, c'est une envie qui est d'abord celle de faire réussir ta famille et de réussir dans ta vie familiale, et que tu as compris que le travail y contribue et que ce n'est pas l'inverse, et ben du coup, c'est naturellement que... on avance ensemble. Tu l'as dit toi aussi, ensemble.
La famille s'imbrique, en fait.
Exactement.
La famille s'imbrique dans ça, dans ce challenge commun, en fait.
Ça.
Les enfants, le mari s'aligne.
Bah, moi, je l'ai vu.
On a parlé d'équipe avec nos...
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, les équipes.
C'est une équipe familiale. Oui, c'est ça, vous êtes mon empire, en fait.
Bah, pareil.
C'est ça.
Et tu as même dit, avec le recul, j'ai pas été gentille. Ça veut dire qu'il y a la remise en question. De là, j'ai fait un choix qui était un peu tranché.
Ça, c'est super important. Oui, voilà, bien sûr. Mais je suis d'accord, je rejoins. C'est une équipe. Mais vraiment, moi, longtemps, et jusqu'à maintenant, on m'appelle la SARL Jouigny. Parce que bon, puisque moi, maman, famille nombreuse, donc voilà, mon médecin, c'est mon médecin le premier, quand médecin pédiatre, qui appelle, comment va la SARL Jouigny? Et là, j'ai pris une claque, et je me suis dit, mince, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais c'est vrai que réellement, on fonctionne, et on ne l'a pas fait, ça s'est fait comme ça, en fait, instinctivement. C'est naturel. Mais c'est vrai que les enfants, comme le mari, suit, en fait. Mais par contre, le regard des autres, lui, il est différent. Je vais donner un tout petit exemple pour ne pas être trop longue. J'étais sur un salon dans ma ville, et mon mari, pour une fois, m'accompagnait parce que lui, il n'est pas du tout la vie publique et autres. Il supporte pas, c'est un geek convaincu. Et là, pour le coup, il a été interpellé par un ami et qui lui dit ta femme, elle est là de temps en temps à la maison? Et là, il l'a remis à sa place. Enfin, pour vous dire que le regard des autres, pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, on parlait, etc. Le suivi, parce que je suis quand même connue et identifiée comme femme engagée. Et donc, on a voulu piquer. Et c'est un homme qui pique un autre homme, en fait. Et c'est fou. Donc, pour dire que le regard des autres, quand même, malheureusement, voilà, est toujours présent, Anne, pour répondre un peu.
Et puis, je pense aussi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais moi, je sais que, par exemple, Anne et moi, ce qu'on s'est toujours dit, c'est qu'il n'y a pas de concurrence.
Oui.
On n'est pas, en concurrence. Ça veut dire que, du coup, que ça soit à tour de rôle que l'un va avoir peut-être plus d'activité, plus de retombées, etc. En plus, lui, il est dans les médias, donc c'est quelque chose. Peut-être que moi aussi, j'ai grandi avec ça, le fait de le voir lui être... Mais on n'est pas en concurrence.
C'est-à-dire que
c'est un projet en commun. Et en fait, on n'a pas de problème d'égo dans le couple, de qui va prendre la lumière. Et je pense que ça aussi, ça peut être un frein quand une femme prend du galon, qu'elle est mise en lumière et que l'homme de l'ombre, ils ne savent pas être les hommes de l'ombre.
Mais pour moi, il faut que ce soit sain. C'est-à-dire que, pour prendre notre exemple, c'est que moi, j'ai été identifié avant elle, du coup, très identifié. Mais par exemple, sur Sow Park, on ne me voit pas. Alors que je suis dans Sow Park. Mais Sow Park, moi, je lui ai dit, non, c'est toi qu'on montre. C'est-à-dire que la communication, elle est faite autour de Ami. Parce que je n'ai pas ce souci-là. Et je pense que il faut que les hommes évoluent. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que malheureusement, les hommes ne sont pas sûrs de leur karaté.
Ouais, je pense que le vrai
c'est-à-dire
sujet...
C'est-à-dire qu'ils ont un problème d'ego et d'estime.
C'est pour ça que ça rejoint, mais c'est vrai. Tu as raison.
Parce que ça remet en cause
certaines choses. À la virilité, en fait.
Exactement. Oui, mais on en revient finalement au patriarcat, à l'image de la femme. Finalement, on revient au commencement.
Tout à fait.
L'homme qui va chasser, la femme qui reste. Et là, tu te retrouves avec la femme qui chasse. Et il y a quelque chose qui ne va pas.
Elle chasse, mais elle ne fait pas à manger.
C'est ça, en plus.
Moi,
j'ai gardé ma fille, par exemple. J'ai pris un congé.
Comme mon mari. Mon mari aussi. Et il a été critiqué pour
ça. Et moi, j'ai kiffé.
Justement.
Congé maternité.
Moi, j'ai kiffé. Et je sais qu'il y a certains hommes qui vont me regarder avec des gros yeux, mais moi j'ai kiffé. Et si c'est à refaire, je le referai. Parce qu'à un moment donné, il faut être droit dans ses baskets.
C'est ça. Quand tu es droit dans tes bottes, en fait, c'est pas un sujet. Je pense que les couples qui fonctionnent bien au niveau entrepreneurial et familial, c'est aussi les couples où l'homme est droit dans ses bottes, en fait.
Oui, c'est vrai.
Et cette notion de concurrence, elle est super importante. Enfin, elle n'existe pas. Elle ne doit pas exister.
C'est le projet commun, c'est la SARL.
C'est
la SARL.
C'est le projet familial. Moi, il fait ma com, par exemple. Moi, il fait ma com, il est présent. Donc voilà, on ne le voit pas, c'est pareil, on ne le voit pas, mais il est présent, il accompagne. Donc voilà.
Est-ce que, parce que ça va toucher à sa fin, est-ce que... Mariam, tu peux nous parler de puissance de femme et les autres, si vous avez des actualités.
Et profitez-en pour présenter vos entités et surtout pour donner vos actualités sur les mois à venir avant de rendre l'antenne.
Puissance de femme, j'ai dit, une association qui valorise les femmes engagées, qui leur donne plus de pouvoir d'agir. Et là, nos actualités, donc on va lancer le programme Leader. Donc c'est un programme qui est vraiment destiné aux porteuses de projets à impact. Donc, c'est vraiment des femmes à la tête d'associations qui veulent se développer, qui veulent s'émanciper et sortir du bénévolat subi parce qu'on l'a trop constaté. Et donc, voilà, donc, c'est notre prochaine actualité. Et samedi, le 8 mars, on est à la région et on a pas mal aussi d'actions là, qui arrivent cette semaine. Et merci pour l'invitation puisque du coup, ça rentre aussi dans le cadre des sollicitations qu'on a autour du mois de mars. Et donc voilà.
Merci, Mariam. Merci à vous. Les filles, Ouri, sur ta commune, il y a des actualités?
Alors, en actu, on en a beaucoup. J'ai un salon de l'entrepreneuriat local qui se tient le 22 mai en partenariat avec l'ADI. J'ai des formations destinées aux femmes, créer son site internet en 35 heures et développer son activité, notamment aussi avec tout ce qui est e-commerce, Shopify, etc. Et j'ai mon fameux Lâche la prise que j'ai fait l'année dernière. Donc, c'est un moment où il y a 200 femmes qui sont là, qui font du yoga, de la sophro, etc. Donc, en immersion totale, ça, c'est top.
C'est génial. Bien sûr.
C'est super. Tu n'étais pas venue?
Je n'étais pas là.
Bon, la prochaine.
Je suis restée branchée à la prise.
La prochaine. Bon, Virginie.
Alors, sur les actualités, alors pour l'instant, je suis en refonte d'offres. Donc, pour le moment, il n'y aura pas d'actualité à ce niveau-là. Par contre, du coup, j'anime un podcast qui s'appelle L'échappée libre, où je donne des conseils à des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà, je vous invite à l'écouter sur n'importe quelle plateforme.
Et L'échappée libre.
L'échappée libre.
On essaiera de mettre tout ça en bio.
Super, merci.
Pas d'actualité pour moi pour le moment. J'accompagne les femmes qui le souhaitent.
Waouh! Et t'es là avec nous. Magda.
Et puis, plusieurs actualités, mais déjà samedi 8 mars, sur la ville de Stein, sur la journée des droits des femmes, j'ai donc un événement, en fait, une conférence, exposition, justement, sur le droit des femmes, depuis Mathieu Zalem, j'ai envie de dire. Donc, entre acquis et combat, comment on repense, en fait, le droit des femmes. Donc, ça a lieu à Stein, samedi, de 14h à 17h, avec une exposition également qui revient sur donc le droit des femmes, notamment aussi au point de vue international. Et également un repas citoyen qu'on organise avec plusieurs associations sur ma ville de Stein, qu'on fait maintenant depuis un certain nombre d'années, qui est ouvert à tous lors de la rupture du jeûne, donc interconfessionnel, vraiment ouvert à tous et toutes, dimanche 23 mars.
Où ça?
À Stein.
Mais où?
Sur la place du marché.
Sur la place du marché.
Voilà.
Pour Soparx, en termes d'actualité, pour ceux qui ont suivi, on lance le salon de la famille SoFamily qui aura lieu le 31 mai aux espaces V à Villepinte. Donc, on en profite pour faire un appel aux candidats. Si vous êtes concerné par la famille, si les valeurs de la famille sont des valeurs fortes et que vous souhaitez participer à cet événement en tenant un stand ou une initiation ou une découverte d'activité, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez envoyer un mail sur sofamily@gmail.com. Et si tout simplement vous voulez venir passer du bon temps en famille ou avec vos publics, n'hésitez pas. On en profite pour remercier mon Paris FM de nous recevoir. Merci à vous toutes et à toi, Barberiche, d'avoir été là pendant les échanges. Et on se dit à très vite. Ciao.
Merci. Merci. Merci.